Mireille Bocassa était la présentation.
Les noms des 500 députés, dont 42 femmes qui constitueront la prochaine Assemblée nationale, sont désormais connus. C'est hier tard que la CEI a publié la liste définitive des résultats provisoires des législatives. Le sous-secrétaire général des Nations Unies chargé des affaires humanitaires relève 4 problèmes sociaux majeurs que connaît la province du Katanga. C'est à l'issue de son séjour dans cette province que Yann Eglant a fait cette déclaration. Vous le suivrez dans cette édition. Utiliser des cadavres pour récolter de l'argent, cette pratique prend de l'ampleur en Mbujimayi, province du Kasaï oriental, une pratique que condamne l'église catholique de cette province. Voilà tout pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous recevoir chez vous. La totalité des résultats provisoires des élections législatives du 30 juillet dernier est à présent connue. C'est hier tard dans la soirée que la CEI a publié les noms des candidats élus. René Capita.
Le PPRD vient en tête avec 111 sièges. Ensuite vient le MLC 64, le PALU 34, le Mouvement social pour le renouveau MSR 27 sièges, les Forces du renouveau 26 sièges, le RCD 15, la CODECO et la CDC 10 sièges chacune, UDEMO 9 sièges, les Temps de la Patrie, DCF, COFEDEC et PDC 8 sièges chacun, UNAFEC 7 sièges, ADECO, PRM, ACDC, UPERDI, RCDN et CCU, 4 sièges chacun, PANU, PANADI, CDD, UNAFEC, UPC, CRD et ABACO, 3 sièges chacun, UMR, Renaissance P, FONUS, RSF, SODENA, ANCC, PDSC, PRP, UNADEC, PCBG, MDD et ARC, 2 sièges chacun. Les partis qui ont obtenu un siège chacun sont Démocratie chrétienne, CNRP, MARC, PTF, ULDC, FRODECO, MSDD, UCC, PANAP, UPENAC, GR, PCB, FIS, FCIR, UDR, CNAP, MLP, CVP, FSDD, Maïmaï, OPK, UNA, MR, RADESO, ICRG, AREN, REC Les Verts, MPCR, ANCPF, RCPC et CCD. On compte par ailleurs 63 députés indépendants. Selon la loi électorale, c'est de la majorité parlementaire qui doit sortir le Premier ministre. Les alliances politiques sont donc inévitables afin de constituer cette majorité.
Vous pouvez retrouver l'intégralité de la liste des députés sur le site de la CEI, www.cei-rdc.org. 42, c'est le nombre de femmes qui vont siéger parmi les 500 députés de la nouvelle Assemblée nationale. Et lors de son entrée en fonction, la chambre basse du nouveau Parlement sera présidée par le doyen en âge. Il a 85 ans. On écoute quelques considérations sur le gender, considérations faites par l'abbé Malou Malou hier après la publication des noms. Il est au micro de René Capita.
Je voudrais vous dire que concernant le problème de la parité hommes et femmes, nous sommes loin de l'objectif poursuivi, puisque sur 9709 candidats, il y avait 8335 candidats masculins et 1374 candidates. Et sur 500 élus, 458 hommes, 42 femmes. Le plus âgé à l'Assemblée nationale, à ce stade, a 85 ans et les plus jeunes ont 25 ans.
Notez que les 500 députés sortis des élections du 30 juillet dernier vont constituer la future Assemblée nationale. Cette chambre du Parlement aura pour mission de voter des lois, mais aussi de contrôler les actions du gouvernement, des entreprises et services publics. En outre, la composition de l'Assemblée nationale sera déterminante pour la désignation du futur Premier ministre. Explication de Freddy Lufulabo.
La future Assemblée nationale devra se réunir en session extraordinaire le 15e jour suivant la proclamation des résultats des élections législatives par la CEI. La toute première séance, ouverte par le secrétaire général de l'Assemblée nationale, sera consacrée à l'installation du bureau provisoire de cette institution. Ce bureau sera dirigé par le doyen d'âge, assisté de 2 députés les moins âgés, avec pour mission la validation des mandats des députés suivis de l'élection et l'installation du bureau définitif. Il faut cependant signaler que le Premier ministre sortira de la majorité parlementaire, c'est-à-dire le parti politique ou le regroupement politique qui aura au moins 251 députés sur les 500 que comptera la future Assemblée nationale, va alors proposer un candidat qui sera nommé Premier ministre par le chef de l'État. Un problème peut se poser cependant si aucun parti n'a obtenu cette majorité. Dans ce cas, le président de la République va confier à une personnalité de son choix la mission d'identifier un regroupement des partis politiques pouvant constituer la majorité parlementaire. Durée de la mission, 30 jours, renouvelable une seule fois. Mais le fait que les partis politiques ont déjà constitué des plateformes politiques pour les élections peut faciliter les choses, dans la mesure où ces plateformes peuvent s'entendre rapidement pour présenter un candidat Premier ministre.
Notons que la deuxième chambre du Parlement sera constituée après les élections provinciales prévues pour le 29 octobre prochain. Les députés provinciaux élus vont se réunir à leur tour pour choisir les futurs sénateurs nationaux. Direction province du Katanga, au terme de son séjour dans cette province, le sous-secrétaire général des Nations Unies chargé des affaires humanitaires a relevé hier jeudi 4 problèmes sociaux que connaît le Katanga. Il s'agit de l'impunité, la corruption et la fraude douanière, le dysfonctionnement de la CONADER ainsi que le manque de transport. Yann Eglond a fait cette déclaration à l'issue de sa rencontre avec le gouverneur du Katanga. Le point avec Donat Chimbouj.
À propos de l'impunité d'abord, les sous-secrétaires généraux déplorent le fait que les auteurs des viols civils et militaires ne soient pas inquiétés. Ils demandent que désormais soit relevé de ses fonctions tout responsable militaire ou civil qui n'aura pas sanctionné l'auteur du viol placé sous son autorité. Yann Eglend a ensuite déploré la fraude qui sévit à grande échelle à la douane de Kasumbalesa, à la frontière avec la Zambie. L'aide humanitaire des agences de l'ONU se voit ainsi bloquée des mois durant, a-t-il relevé. Les Maïmaï qui déposent les armes doivent être rapidement pris en charge par la CONADER, a renchéri l'hôte du Katanga. Mais cette institution ne s'acquitte pas de sa tâche. Pour preuve, a-t-il dit, les éléments de Fidèle Ntombi qui ont fait reddition il y a 2 semaines sont abandonnés à eux-mêmes à Poueto. Le Katanga est aussi confronté aux problèmes logistiques pour l'acheminement de l'aide aux populations démunies. Pas de route, pas de moyens de transport. Le sous-secrétaire général propose donc que les secteurs privés congolais qui réalisent des grands bénéfices au Katanga se joignent aux efforts de la MONUC et du gouvernement. Lubumbashi, Donat Chimbouj, Radio Okapi.
Signalons que le sous-secrétaire des Nations Unies chargé des affaires humanitaires se trouve à présent à Bukavu, dans le sud Kivu. Sont à présent environ 100 personnes atteintes et déjà 11 cas de décès. Tel est le bilan d'une maladie non encore identifiée qui affecte le territoire de Haru depuis le début de la semaine. Selon les sources médicales sur place, 3 collectivités sont les plus touchées. Il s'agit de la collectivité de Zaki, de Kaliko-Omi et de Kakwa. Pour faire face à cette maladie, les autorités politico-administratives de Haru sensibilisent les opérateurs économiques à contribuer dans la prise en charge des victimes. Le point avec Isaac Remoyopi.
Selon le médecin chef des zones de Haru, joint au téléphone, les victimes font des fortes diarrhées, vomissent et ensuite sont affectées par la déshydratation. Il indique aussi que faute d'infrastructures appropriées des laboratoires, cette maladie n'est pas encore diagnostiquée. Dr Raymond Adako attribue la cause du développement rapide de la maladie aux échanges entre la population des 3 collectivités les plus touchées.
Les cas qu'on a registrés, c'est dans la zone de santé de Ariwara, Adi et Laibo. À Ariwara, il y a les marchés même de Ariwara. Alors, d'Adi, déjà, se déplace à tout moment pour Ariwara. La maladie s'est déclarée autour de Adi, mais avec cette circulation populaire, il y a eu transmission, les contacts étaient. Mais a fait que la maladie se propage plus rapidement.
Il a ajouté que le non-respect des règles d'hygiène peut être à la base de cette maladie. De Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Province du Sud Kivu, l'ambassadeur des États-Unis en République démocratique du Congo vient d'octroyer une subvention d'environ 19 000 dollars à l'hôpital général de référence de Fizi dans cette province. Roger Miss a remis ce fonds mercredi dernier à l'ONG Médecins en catastrophe qui est chargée de réhabiliter et de rééquiper le bloc opératoire de cet hôpital à Fizi. Fisongo Mamayabala.
Construit en 1953 par les colons belges, cet hôpital abrite 4 services standards, à savoir la maternité, la pédiatrie, la médecine interne hommes et femmes et la chirurgie. D'autres services auxiliaires comme la radiologie, le laboratoire, les blocs opératoires et la pharmacie avaient été sensiblement détériorés pendant la rébellion. Selon le médecin directeur de cet hôpital, Dr Bovi Kimiango, la seule salle d'opération transformée en bloc opératoire a été façonnée par les moyens des bords. On y trouve un lit de fortune, machine servant des lits d'opération, une marmite, de pinces et des ciseaux. L'hôpital n'a pas une source d'énergie, pas d'eau potable, pas de lingerie à la maternité. Bovik Miango a indiqué qu'il ne peut pas effectuer certaines opérations chirurgicales suite au manque de matériel. En moyenne, 7 à 8 opérations sont effectuées par mois. Il a souhaité voir ses travaux se concrétiser le plus tôt sur le terrain. Par ailleurs, selon l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, ce financement devra améliorer les soins de santé pour les personnes retournant dans leur localité d'origine, les déplacés internes et les résidents locaux du territoire de Fizi. Selon les statistiques, plus de 130 000 résidents locaux de Fizi n'ont pas accès aux soins de santé. Fiston Goma Mayabala, Ouvira Radio Okapi.
Rendons-nous à présent à Mbujimayi, au Kasaï oriental, où des cadavres sont monnayés. Des groupes de personnes utilisent des cadavres d'indigents pour récolter de l'argent auprès de tous les particuliers et les commerçants de la ville. Pour ce faire, l'Église catholique s'insurge contre l'utilisation malveillante de ces dépouilles mortelles. Selon le vicaire de la cathédrale Bonzola, la crise économique qui frappe Mbujimayi ne doit pas être le prétexte pour bafouer les fondements de la dignité humaine et des règles sociales. Monsieur l'abbé Liévin Kadima est au micro de Julien Nyamouini.
Ça doit cesser, cette pratique. C'est honteux. L'homme reste homme et différent d'une bête. Il est une émanation du divin. Il est donc créé à l'image de Dieu. Même cadavre, il mérite sa valeur en tant que tel. C'est pendant la crise que les gens ont battu des grandes nations. C'est pendant la crise que les gens ont montré de quoi ils sont capables. Le mal ne peut pas être justifié par un autre mal. Ça veut dire, parce qu'il y a crise, parce qu'on meurt de faim, alors on doit laisser les cadavres à l'extrême sort jetés dans la ville comme des ordures que l'on jette dans la poubelle. C'est inacceptable. Il y a une malhonnêteté qui s'est glissée dans la mentalité des gens et qui a rasié la valeur culturelle. Nous, en tant qu'Africains et puis Congolais, la religiosité nous est reconnue. Et du moment que l'on perd ça, la société bascule à la dérive, simplement.
De retour au Sud-Kivu pour parler du centre Ave Maria du quartier Luziba de Bukavu, qui n'a toujours pas ouvert ses portes pour cette année scolaire 2006-2007. Les parents des élèves de cette école accusent le père Joseph Kabamba, l'actuel curé de la paroisse Saint-Pierre Claver de Ngouba, d'être à la base de cette fermeture. Les explications, Charlotte Ngungi.
Selon les parents d'élèves, l'ouverture de ces centres dans ces milieux avait contribué à diminuer les taux de vagabondage juvénile. C'est pourquoi, pour eux, il n'est pas question qu'on ferme cette école. De plus, bien qu'école privée, ils n'ont pas été prévenus de la fermeture. Écoutons un des parents d'élèves.
On a fermé ce centre, nos enfants étudiaient là-bas. C'était une façon de diminuer les vagabondages et les banditismes juvéniles. Nous étions étonnés d'apprendre que l'école est fermée. Ils nous ont informé cela très tard, au moment où les autres écoles avaient déjà terminé d'inscrire. On ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire avec ces quelques 500 élèves. Les moyens que nous avons ne nous permettent pas de vivre ou d'ailleurs d'avoir de l'argent pour aller chercher des places dans d'autres écoles.
Contacté à ce sujet, le père Joseph Kabamba, curé de la paroisse Saint-Pierre Claver, affirme ne pas avoir fermé l'école, mais il a plutôt récupéré les bâtiments de la paroisse. Il a ajouté que les anciens dirigeants de cette école n'avaient pas honoré leur engagement de plus de 4 000 $ pris auprès d'une coopérative de la place. Et cette dernière réclame cette somme à la paroisse Saint-Pierre Claver de Ngouba. Selon toujours les prêtres, l'école Ave Maria peut aller fonctionner ailleurs. En attendant, les élèves des 4 classes de cette école sont dans la rue. Bukavu, Charlotte Ngungi Selemani, Radio Okapi.
Deux administrations parallèles se disputent la gestion de la chose publique en province orientale. Les faits se déroulent dans la collectivité de Bolomboki à Isangi, territoire situé à 125 km à l'ouest de Kisangani. Conséquence, la population est soumise à une double taxation pendant que les autorités rivales entretiennent un climat d'animosité. Selon l'administrateur du territoire d'Isangi, cette confusion est entretenue par la division provinciale de l'intérieur qui a installé à son insu un autre chef à Bolomboki. Les explications, Anselme Massoua.
La scission de la collectivité de Bolombo, qui à 165 km du territoire d'Isangi, est intervenue en août dernier. Ceci suite à l'installation d'un chef de localité comme nouveau chef de cette collectivité. L'administrateur du territoire d'Isangi, Crispin Kakwaka, qui dénonce cette situation, accuse un chef de bureau de la division provinciale de l'intérieur en mission dans cette partie de son territoire d'en être l'auteur. Conséquence, la population vit une situation difficile. Les preuves de paiement des taxes émises par la première administration sont rejetées par l'administration parallèle. En outre, les deux chefs s'écrivent mutuellement de lettres méchantes. Ils s'accusent de violation des limites territoriales et d'infiltration. Interrogé sur les motivations de son geste, le chef du troisième bureau à la division provinciale de l'intérieur reconnaît le fait. Néanmoins, il affirme avoir agi sur ordre du conseiller politique du gouverneur de la province orientale. Des allégations qu'il rejette carrément ce dernier. Pour Kifuko Yalomecha, tout ce qui a été fait à Bolombo qui n'engage que son auteur. Informé de cette anarchie, le gouverneur de province promet une enquête avant de prendre une décision qui s'impose. En attendant, la population est soumise au calvaire. La collectivité de Bolombo qui est considérée comme le grenier du territoire d'Isangi. Kisangani, Anselme Maswa, Radio Okapi.
C'est par ici que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à Jean-Claude Fiala et Patrick Kiasongwa qui étaient à la mise en onde sur www.radiocapi.net. Vous pouvez nous retrouver. Okapi. Okapi.